Ici, dans le rétro, l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, dans le rétro, c'est un plaisir de vous retrouver ici pour un nouveau podcast. Je me présente, Déborah Grunewald. Si vous êtes abonné depuis longtemps, c'est Deb, hein, pour les intimes. Chaque semaine, on part pour une balade avec un invité. On se téléporte au fil de sa vie, de sa carrière. C'est l'occasion de découvrir des choses qui nous lient parfois, des interrogations qu'on a en commun, des doutes qu'on traverse de la même façon. Aujourd'hui, nous sommes avec une femme intuitive, spirituelle et sensuelle, actrice, mannequin. Elle éprouve depuis quelques années le besoin d'aider les autres. Notre invitée aujourd'hui, c'est Miss Ménopause. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Passé, présent, futur, c'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Miss Ménopause.
J'adore, super présentation.
C'est un peu salaud, j'avoue, Linda Hardy.
Mais c'est ce qu'on m'a dit à un moment donné, donc c'est top.
En fait, il faut dire que la ménopause, c'est un vrai sujet. Vous avez été une des premières à utiliser votre notoriété pour en parler. Quand on vous dit Miss Ménopause, il y a un côté hyper péjoratif.
Ça prouvait vraiment qu'il y avait un problème. Et ça m'a confortée dans le fait qu'il fallait absolument aller briser les tabous et libérer la parole à ce sujet-là.
Ça va mieux ?
À moi, ça va bien. Lui, j'espère aussi.
Vous, ça a l'air d'aller bien.
Mais moi, je vieillis bien. Est-ce qu'il vieillit, lui, aussi bien ? On ne sait pas.
Votre livre, Linda Hardy, s'appelle « La ménopause attitude ». C'est un titre cool pour un truc pas cool, quand même.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un truc pas cool ? Parce qu'à ce moment-là, on peut dire aussi que la puberté, c'est pas cool.
Bah ouais, quand même.
Oui, mais... il faut qu'on arrête de définir des choses comme étant bien, pas bien, cool, pas cool. Le premier effort à faire, c'est de se dire, c'est la vie, je vais faire avec. Et comme tout événement de la vie, parfois, il y a des choses difficiles, il y a des obstacles. Mais ça, c'est le chemin même d'une vie. Une vie sans obstacles, c'est une vie où on n'évolue pas.
Et justement, pour bien vivre la ménopause, il y a ce livre « Ménopause Attitude ». Ensemble, reprenons le pouvoir. Concrètement, la ménopause, c'est quoi les symptômes ?
Les plus courants, en tout cas ceux dont on parle le plus, ce sont les bouffées de chaleur et la prise de poids. En revanche, il y a d'autres symptômes qui sont des symptômes émotionnels, psychologiques. Ça va être le brouillard mental, une perte d'énergie, un manque de concentration et une forme de déprime, parfois de dépression. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, il y a eu un moment où il y avait cette espèce de mélancolie. À quoi bon ? Physiologiquement, la baisse des œstrogènes provoque ce type de symptômes, ça il faut le savoir. De même que la baisse de testostérone peut avoir une influence sur la libido. Ce qui est important, c'est de bien identifier les symptômes, de bien comprendre que ça peut être des symptômes qui sont liés à la ménopause. Il y a des solutions, mais maintenant il faut effectivement qu'il y ait à la fois l'information et un relais très puissant de la part des professionnels de santé.
La ménopause, Linda Hardy, va de pair avec l'âge. L'âge, c'est pas tabou pour vous. Vous avez 51 ans, vous êtes vachement bien pour votre âge. Je vous provoque évidemment.
Mais oui,
quand je vous dis ça, c'est une provocation. C'est une phrase qu'on entend très souvent quand on a 45, 50 ans et plus. Vous le prenez comment quand on dit ça ?
Alors moi, je vais vous dire, j'ai vu une interview de vous, d'Estelle Hallyday, qui disait « Ah mais on dit jamais ça d'un homme ». Mais moi, il y a plein de fois où je vois des mecs qui ont 60. Moi, par exemple, j'ai un de mes collègues de jeu actuellement, je vais le citer, Jean-Philippe Azéma, qui a plus de 60 ans. Qui est mais canon de chez canon, qui a des abdos et tout. Et c'est vrai que plusieurs fois, j'ai pensé dans ma tête, tiens, il joue mon mari en plus, donc c'est toujours plus agréable. Je me suis dit, il est vachement bien pour son âge. Je ne trouve pas qu'on le dit plus pour les femmes que pour les hommes. Ou alors c'est que moi, alors, peut-être que je suis un peu garçon manqué et que du coup, ça, je me permets d'avoir ce genre de réflexion sur les hommes.
On ne le dit pas plus forcément aux femmes qu'aux hommes, mais c'est plus sur le fait que, bah, au-delà de 40-45 ans, ça y est, t'es vieille, t'existes plus. Et ah ouais, t'es quand même pas mal pour ton âge.
Oui, il y a peut-être ce petit
côté... Donc ça peut marcher pour les hommes aussi, d'ailleurs.
Mais je pense aussi que derrière ça, il y a le fait que les femmes vieillissent de mieux en mieux.
Dans votre livre, Linda Hardy, vous parlez de la ménopause, mais pas que. Parlons par exemple du syndrome du nid vide. Oh, c'est ce sentiment de tristesse, de vide que les parents ressentent quand les enfants quittent la maison pour vivre leur vie. Vous comparez le syndrome du nid vide à une sorte de deuil.
Oui, alors j'ai quand même l'impression que c'est un truc très maternel. Je suis pas sûre que les hommes ressentent les choses de la même manière. Bon, moi, je suis toujours à me préoccuper de ce que veut mon fils, de quoi il va avoir envie, de... Il a 15 ans et je me dis, il en aura 18, ça sera pareil. Il en aura 25 et 30, ça sera pareil. On est quand même faite et on a ça. On a envie d'être là pour eux. Il n'y a pas un homme qui ressent la culpabilité que peut ressentir une femme par rapport à ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui reste à la maison, elle se prive un peu d'une vie sociale qui pourrait être hyper épanouissante pour elle. Mais une femme qui travaille et qui est obligée d'avoir une nounou, de mettre son enfant à la crèche, elle culpabilise. Les hommes, ils culpabilisent pas pour ça. Moi, j'ai pas honte de dire que ma vie tourne autour de mon enfant et que je suis angoissée de savoir qu'à un moment donné... Il va partir et des fois je lui dis mais tu crois que tu m'appelleras tous les jours? Alors déjà quand il est chez son père pendant 4 jours, il m'appelle pas, je me dis bon bah dans 5 ans ça va être encore pire. Alors je me dis que s'il m'appelle pas c'est qu'il est bien, parce qu'en souvent on se dit en tant que parent tu m'appelles que quand t'as besoin.
Ouais.
Mais il y a une autre façon de voir les choses qui est de dire si votre enfant vous appelle pas c'est qu'il va bien, parce qu'en général quand votre enfant il a un problème il sait vous appeler.
Le jour où les enfants partent, on peut transformer ce vide et même démarrer une nouvelle vie aussi.
Bien sûr, faut pas avoir honte de dire quand on est une femme que moi les semaines où je suis pas avec mon grand, des fois je me dis ça fait du bien.
Bah ouais. On se le dit toutes.
Parce qu'à la maison, j'ai l'impression de passer mon temps à faire le ménage, à ranger, à faire la cuisine, à regarder si les devoirs ont été faits, à faire un coup la maman papouille et un coup la maman gendarme. On oscille un peu au milieu de tout ça. Et les moments où il part faire ses stages de tennis, où il est avec son père, ça fait du bien. Il ne faut pas avoir honte de le dire.
Linda Hardy, elle dort avec des grosses chaussettes et une bouillotte.
Alors, pas des grosses chaussettes.
Ah si, c'est dans le livre.
Ah mais non, pas du tout. Si. Ah mais ça peut être... Non, j'ai dit l'hiver.
Oui,
si vraiment vous avez
dire
froid.
L'hiver. Oui, d'accord.
Si vraiment vous avez froid, vous pouvez mettre des chaussettes au moment de vous endormir.
Moi, je
que vous
imaginez.
Enlevez après parce que c'est très. Est-ce que vous avez remarqué que c'est hyper difficile de s'endormir quand on a les pieds froids?
C'est vrai.
Ben voilà.
Quand on a quelqu'un à côté, on colle ses pieds.
Ben voilà, mais là, ce n'est pas mon cas, donc chacun fait comme il peut. Mais je suis ravie de savoir que de votre côté, tout va bien.
Donc elle dort avec des chaussettes juste l'hiver et une
juste
bouillotte.
L'hiver. Non, juste l'hiver. Et quand je sens que mes pieds sont réchauffés, j'enlève.
De toute façon, vous n'avez pas de mec, donc on peut garder les chaussettes dans le lit.
Non, mais même, c'est pas possible, c'est hyper désagréable. Ah, non, c'est comme de garder une culotte quand on dort, vous voyez, c'est pareil.
Donc elle dort sans culotte.
Mais avec des chaussettes.
Mais avec des chaussettes.
Non, c'est
Linda
pas tout à fait ça. Mais... Et la bouillotte, c'est bien le soir, surtout après un repas arrosé, parce qu'on a besoin d'aider le foie qui souffre en général quand on a fait un repas ou trop copieux ou trop arrosé, genre après les fêtes de Noël.
Ici, dans le rétro.
C'est parti, on démarre notre voyage dans le temps. Naissez à Nantes, nous sommes le 11 octobre, vous êtes donc balance. Est-ce que l'astrologie, vous y croyez?
J'adore.
Alors, je m'en doutais, c'est pour ça que je vous ai posé la question.
Alors, pas l'astrologie dans le sens, je ne lis pas mon horoscope. Mais est-ce que, par exemple, vous avez déjà fait faire votre thème astral?
Oui.
C'est fascinant.
Les
donc,
femmes...
je suis balance, ascendant taureau.
D'accord.
Et lune en bélier.
Alors, ça ne me parle pas trop, c'est déjà trop précis. Moi, tout ce que je sais, c'est que les femmes balances sont douces, bienveillantes, mais aussi dures et exigeantes. Vous confirmez?
C'est tout ça.
La bienveillance fait donc partie de vos qualités. Vous pensez qu'on peut être bienveillant dans un monde qui est violent?
Je pense que c'est surtout hyper important d'être bienveillant et d'avoir de l'empathie dans un monde violent. Si on veut contrebalancer la violence de ce monde, ça ne peut être fait que par le biais de l'amour. Et de l'amour de son prochain, dans le fait d'aider les autres. Et moi, je pense foncièrement que nos pensées créent nos réalités, mais que notre système aujourd'hui fait en sorte de nous mettre dans un climat de peur permanente et de nous limiter. Pour moi, il faut cultiver, même si c'est difficile, la bonne humeur, la joie, la gratitude. C'est pas forcément hyper simple. C'est des petites choses au quotidien. Rentrer quelque part, sourire, dire bonjour. C'est des choses que l'on a perdues. On essaye aujourd'hui vraiment de sortir de tout ce qui fait nos valeurs, les valeurs de la famille, l'importance de l'éducation. Et je pense foncièrement que ce qui nous sauvera, c'est de nous inspirer de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, pour voir comment ils faisaient.
Vous pensez que la bienveillance, ça s'apprend?
Je pense que ça peut s'apprendre, mais ça demande une volonté de travailler sur soi. En fait, si on n'a pas été éduqué dans la bienveillance, c'est difficile de l'être, à moins d'avoir envie de comprendre quel est son propre chemin. Moi, je sais que je pense que foncièrement, à l'intérieur de moi, depuis toute petite, j'avais cette envie inconsciente d'aider les autres. Et aujourd'hui, si je parle de ce sujet-là, c'est parce que j'estime que c'est de la ménopause, c'est de mon devoir en tant que femme d'aider d'autres femmes. Mais je pense que ça s'apprend, mais ça demande de l'humilité.
Linda Hardy, la femme balance peut donner énormément en amour, elle peut même donner trop parfois. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'avoir trop donné ?
Souvent. J'ai souvent eu l'impression de trop donner, j'ai même souvent eu l'impression d'être beaucoup trop naïve. Moins avec le temps, mais on va dire jusqu'à l'âge de 35 ans, jusqu'à la rencontre avec le papa de mon fils, jusqu'à la naissance de notre fils, j'ai virevolté, j'ai eu des amoureux, mais j'ai surtout eu beaucoup d'hommes qui m'ont courtisée, dont je n'avais pas conscience qu'ils n'étaient pas là pour la petite Linda.
Comment vous êtes rendu compte de ça ?
En fait, je pense qu'on s'en rend compte, mais sans vouloir le voir. Et puis arrive un moment où le couperet tombe. Et là, vous vous dites, mais c'est une évidence, comment j'ai pas pu m'en rendre compte ? Après, j'ai envie de dire, c'est aussi de ma responsabilité, parce que j'ai choisi un parcours de vie où je me suis positionnée un peu comme cette espèce de femme trophée. J'y mets pas du tout de prétention. On sait à quel point les hommes, pour la plupart d'entre eux, ils aiment les belles femmes. Et comment est-ce que ça peut résonner en eux de se dire « Ah bah tiens, je sors avec une Miss France ou avec un mannequin, etc. etc. » Donc,
mais moi, c'est un faire-valoir, ça peut être un faire-valoir.
C'est ça. Et moi, j'avais pas conscience de ça parce que c'est vrai que je pense, et c'est toujours le cas, avoir quelque chose qui est resté très pur dans mon rapport à l'amour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, je pense que si je suis toujours célibataire, c'est que j'ai pas le sentiment d'avoir trouvé l'homme qui soit à la hauteur de cette pureté que j'essaie de cultiver.
Ce célibat, vous le vivez comment ?
Alors, je le vis bien et je me demande même souvent si en fait, je pourrais faire autrement. J'ai vu une vidéo il y a quelques jours, je trouvais ça très très drôle, je me suis dit « Ah, c'est bon ça !» C'était une fille qui disait « Moi, c'est simple, comme je suis célibataire et que j'adore mon célibat, si je rencontre un mec, mais en fait, voilà, c'est juste pour m'amuser un petit peu, je lui dis dès le lendemain que je suis en train de tomber amoureuse. Et là, je suis sûre qu'il s'en va. Ou alors, si jamais ça marche pas, je lui explique quelques jours plus tard que je suis plus diplômée que lui. Et là, c'est terminé et je retrouve mon célibat. Donc, moi, j'aime bien mon célibat parce que j'aime mon indépendance, j'aime me sentir libre. Et pour être honnête, à mon âge, je suis pas sûre. Enfin, j'ai pas envie de faire la maman et j'ai pas envie d'avoir quelqu'un à mes côtés à qui je dois rendre des comptes, quoi.
C'est une façon de vivre aussi aujourd'hui, hein.
Bah, je trouve qu'en tout cas, c'est bien que les femmes assument qu'elles puissent être célibataires et qu'elles se sentent bien avec ça.
On part maintenant en 1975, Linda Hardy. Nous sommes dans le salon de coiffure où travaille votre père. Oh. Votre maman Sylviane, pendant ce temps, est au boulot. Elle travaille à la Sécurité sociale. La valeur travail, c'était une chose importante dans votre éducation.
Oh là là, tellement. C'est vraiment ce que mes parents m'ont inculqué. J'ai le sentiment aussi d'avoir toujours su ce que c'était que le goût de l'effort. Je trouve que c'est important. Oh, j'aimerais tellement que les jeunes aujourd'hui comprennent à quel point c'est important.
C'est pas le cas. Vous trouvez que c'est
non,
pas le cas?
Non, je pense que ça n'est pas le cas. Moi, je vais vous dire, j'ai eu deux exemples merveilleux. Ma maman a été placée à la DAS, elle avait 10-12 ans. Elle a rencontré mon papa très jeune, elle avait 18 ans. Et mon papa en avait 26. Mon papa travaillait dans un salon de coiffure depuis qu'il avait l'âge de 13 ans. Et il a gardé le même patron toute sa vie. Et ensuite, à l'âge de 40 ans, il a repris le salon de coiffure. Mais pour ça, il fallait son BP, ça s'appelle donc le brevet professionnel. Mmh. Et en fait, il est retourné à l'école à 40 ans. Ma maman, elle a décidé, parce qu'elle avait cette vraie envie, comme voilà, gamine qui sortait de la DAS, de s'exprimer aussi par son travail, à travers ce qu'elle allait devenir en tant que femme socialement. Elle a fait les cours de cadre, et donc elle est devenue la plus jeune cadre de sa promotion. Elle avait, je crois, 26 ans. Donc j'ai eu les exemples de parents qui ont su se réinventer et vraiment se donner les moyens d'y arriver et de gravir les échelons. Donc, ça a été hyper inspirant pour moi. J'ai jamais envisagé ma vie autrement que par ce biais-là. Et aujourd'hui, je suis très exigeante vis-à-vis de mon fils. J'essaie de lui rappeler tout le temps que le travail, c'est important, que c'est une façon de vivre, de savoir travailler.
De s'accomplir.
De s'accomplir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde où, aussi à cause des réseaux sociaux, on va quand même beaucoup vers la facilité, je suis un petit peu inquiète. Mais voilà, j'ai aussi bon espoir que les nouvelles générations trouvent d'autres ressources, mais c'est hyper important.
C'est les vacances d'été, vous avez une dizaine d'années, vous profitez avec votre famille, mais le temps vous paraît long. Heureusement, il y a les cahiers de vacances, parce que oui, il y a donc des enfants qui adorent les cahiers de vacances.
Ah, moi, j'adorais les cahiers de vacances, j'adorais oui. L'école, je m'ennuyais dès que je n'étais pas à l'école. Non, mais c'est terrible, c'est-à-dire non, mais que...
Moi, je me rappelle, les cahiers de vacances, c'était un cauchemar. J'étais très bonne parce que je savais où ils étaient planqués. Enfin, vous savez, les corriger.
Oui.
Mais
ah
c'était
oui.
un enfer.
Alors
ça.
Moi, ça ne me serait jamais venu à l'idée d'aller chercher le corriger.
Ah, je suis sûre que je ne suis pas la seule pourtant.
Alors non, bon. Moi, il faut savoir que j'étais vraiment pas tout à fait normale sur ce sujet-là. Que ça soit dans ma plus tendre enfance jusqu'à mes années collège, puis lycée, quand j'ai passé mon bac C. Je n'arrivais pas à concevoir que l'on puisse arriver le jour, à l'époque, on appelait ça des compositions, ou de, je ne sais plus comment ça s'appelait, des interrogations écrites, sans avoir travaillé. Je méprisais profondément tous ceux qui ne foutaient rien.
Je voudrais juste qu'on reste sur les vacances. Justement, vous êtes sur scène, Linda Hardy, dans la pièce « Vive les vacances ou pas », une pièce de Marilyn Ball. Trois couples d'amis partent pour la première fois en vacances ensemble. Ce sera le théâtre de règlement de compte. Mm-hmm. Ça parle de l'amitié, de l'amour, de la jalousie, de l'éducation des enfants. Dans le communiqué de presse qu'on reçoit et qui parle de la pièce, il y a deux questions qui sont suggérées. Je vais vous les poser. La première, connaît-on vraiment ses amis ?
Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où déjà c'est difficile de connaître totalement la personne à côté de qui on vit. Est-ce qu'on connaît vraiment ses amis si on suit la même logique ? Non. Maintenant, on connaît quand même leurs défauts, leurs qualités. Et ça parle aussi de ça, la pièce, c'est que finalement, on n'est pas parfait, que l'amitié, c'est aussi ça, c'est d'accepter nos amis.
Tels qu'ils sont.
Et c'est aussi de savoir qu'on a certains amis qui vont pouvoir vous accompagner sur certains chemins et pas d'autres, parce que ça ne va pas résonner en eux, vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on n'est pas obligé d'avoir un ami qui réponde à tous les critères.
Il y a une deuxième question dans cette pièce, Vive les vacances ou pas. Jusqu'à quel point pouvons-nous tout accepter en amitié ?
Certainement pas tout. La trahison...
Vous ne faites pas partie de ces amis, par exemple, qui butent quelqu'un, j'irai planquer son corps pour aider mon pote, quoi.
Non, je pense que ça, c'est le genre de choses que je pourrais faire potentiellement que pour mon enfant.
Vive les vacances ou pas de Marilyn Ball avec Linda Hardy, Kamel Belghazi, Stéphanie Colonna, Sandrine Lebert, Erwan Crenou et Jean-Philippe Azéma. Les dates de la tournée, on vous les mettra sur la page de l'émission dans le rétro. Linda Hardy, on va continuer notre voyage. Vous faisiez donc partie de ces enfants qui attendaient la rentrée avec impatience. Surtout... Quand le prof de maths était grand, les yeux bleus, les cheveux grisonnants, je fais allusion à un de vos profs principaux au collège, vous faisiez partie, vous le disiez, des meilleurs élèves de la classe. On les appelait les intellos, les faillots même. On les embêtait. Est-ce que vous avez été, entre guillemets, maltraité ou embêté parce que tête de la classe, quoi ?
Non, j'ai pas du tout de souvenir d'être maltraité ou d'être harcelé. J'ai simplement le souvenir que j'avais, en tout cas, aller jusqu'en seconde, certainement auprès de ceux qui étaient moins bons élèves, une petite réputation de faillotte. J'aimais bien être bien vue, hein, moi.
Ouais.
J'aimais bien être bien vue, j'aimais qu'on m'aime, j'aimais que les profs m'aiment. Et d'ailleurs, ils m'aimaient.
Valait mieux être aimé par ses professeurs que par les autres élèves.
Non, mais parce que j'avais quand même des copains, des copines, hein, mais c'était dans les meilleurs de la classe.
Voilà.
Mais non, mais de toute façon, moi, ceux qui n'étaient pas bons, ils ne m'intéressaient pas. Non mais je le dis,
bah
c'est-à-dire
oui.
que je les aimais pas plus que eux ne m'aimaient pas en réalité.
Ouais.
Tout ça s'équilibrait.
C'était réciproque.
Voilà.
Linda Hardy, un événement va changer votre vie. Téléportation, on part en 1992 au CNIT de la Défense à Puteaux. C'est l'élection Miss France.
Bonsoir. Alors je m'appelle Linda Hardy, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en première année de BTS Commerce International. J'espère intégrer ensuite une école de commerce.
Est-ce que le concours Miss France, aujourd'hui, il est adapté à l'époque ? En gros, est-ce qu'il faudrait supprimer ou réadapter les concours de beauté ?
Aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'inclusion. On nous parle beaucoup de diversité. Et c'est bien. Maintenant, On m'a demandé, par exemple, ce que je pensais du sacre d'Angélique, la Miss France actuelle, qui a 34 ans. Alors, j'ai envie de vous dire, dans l'absolu, je trouve ça super. Parce que, à l'ère des réseaux sociaux, il faut une sacrée bonne dose de maturité pour pouvoir encaisser tout ça. Mais à côté de ça, on nous parle de faire quelque chose de plus inclusif, de créer de l'égalité. Mais en réalité, pour moi, c'est une forme d'hypocrisie, pour la simple et bonne raison que si on permet à des femmes de 40 ans de participer au concours de Miss France, bah forcément, quand elles vont commencer à parler avec le parcours, le vécu, l'expérience d'une femme de 40 ans, celle de 18 ou de 20 va être désavantagée. Donc, où est la limite en réalité ? Je suis assez d'accord sur l'histoire de la taille. Pour moi, une Miss France, qu'elle fasse 1m50, 1m60, 1m70 ou 1m80, je trouve qu'en fait, tout ça, ça n'a vraiment pas d'importance. Mais sur l'âge, et puis en plus, j'ai envie de dire, si elles ont 40 ans, à quoi ça sert de les mettre en maillot, à se trémousser sur de la musique techno ou de la disco ? Enfin, il y a quelque chose.
C'est marrant ce que vous dites, parce que justement, à l'heure où on veut nous faire passer ce message de s'accepter tel qu'on est, peu importe l'âge qu'on a.
Oui, mais est-ce que ça veut dire que pour autant qu'on est obligé de se montrer en maillot de bain à 21h un samedi soir de décembre, en fait, je veux dire, si on veut arrêter de réduire la femme à une image physique, etc., le maillot de bain n'a plus lieu d'être, en
fait. Oui, mais c'est le cas pour le coup des concours Miss France.
C'est le cas des concours Miss France, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, pour moi, ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui. Pour moi, il y a quelque chose qui aujourd'hui n'est pas totalement assumé, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et effectivement, de manière très juste, la question se pose de savoir aujourd'hui, si on veut vraiment tout mélanger comme on le fait, est-ce que ce concours a toujours lieu d'être ?
Ici, dans le rétro.
On part en 1999. On va allumer la télé, vous êtes aux côtés de Thierry Ardisson pour présenter Tout le monde en parle.
C'est un télégramme pour Linda Hardy d'ailleurs, un télégramme de Sophie Talman, qui est donc Miss France comme vous, et qui est à Téléfoot et qui dit « Je t'échange ton Thierry contre le mien ».
Est-ce que vous en voulez de Sophie Talman ?
Non.
Bon, moi je ne vais pas sur télé.
Ouais, elle ne va plus me quitter, non, c'est beau.
C'est bizarre quand on est gentil, hein, comme ça.
Tu veux ou tu veux pas ?
Oui, c'est marrant, on a décidé d'être gentil entre nous, ça change tout.
Oui,
hein.
Ça change
c'est
tout, formidable. Mais là, au niveau de l'audimat, ça ne va plus marcher. Hein.
Ouais, moi,
les gens aiment
bien.
La méchanceté, les gens aiment. Ils aiment qu'on se foute sur la gueule.
Bon, tais-toi maintenant.
D'accord.
Alors, voilà. Un télégramme de Rocco Siffredi, je voulais faire ta prochaine émission. Mais il y a trop de monde, on m'a dit de faire la queue, c'est casse-couille. Hein.
Bon, alors vous avez une histoire avec Rocco Siffredi, ça on en parlera dans un instant.
Ah oui, fictive
c'est pas... Oui. Non mais vous avez une histoire, là tout de suite ça fait titre de presse bien racoleur, mais il faut savoir garder nos auditeurs et nos auditrices en haleine.
Voilà.
Plus sérieusement, quand vous réécoutez un extrait comme celui-ci avec Ardisson, qu'est-ce que vous vous dites ?
Bah, là je trouve ça assez rigolo. J'étais plutôt encore bonne élève, hein, bien intentionnée, envie que ça se passe bien.
Est-ce que vous étiez choquée à l'époque de l'humour de Thierry Ardisson ? Est-ce que vous pensez que c'était de l'humour ? Aujourd'hui, on est dans une époque différente.
Non, mais ça serait impossible aujourd'hui. Quand, lors de la dernière émission à laquelle j'ai décidé d'assister, on m'a demandé de passer sous la table pour tirer les rois.
Bah, en même temps, pour tirer les rois, parfois, on passe sous la table.
Oui, mais enfin, quand même.
C'était de l'humour ?
Non, c'était pas de l'humour, mais même si ça en était, enfin, en tout cas, ça ne marcherait plus aujourd'hui. Ça n'est pas possible. Il y a un tas de choses, même sur le comportement de certains invités vis-à-vis de moi. Aujourd'hui, ça passerait pas. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, moi, j'étais pas choquée.
C'est ce que j'allais vous demander, parce que c'est vous aussi la principale intéressée. Comment vous le viviez à l'époque ?
Alors, ça dépend des fois. Il y a des fois où, quand même, j'étais mal à l'aise, même si je pense que j'arrivais bien à le cacher et que j'avais un certain sens de la répartie. Qui fait que je me laissais pas démonter. Mais je joue aussi un petit peu d'une forme d'insolence. L'autre jour, je suis retombée sur une interview, par exemple, de Murat, où je lui disais « Et vous, sexuellement, ça se passe comment ? Vous êtes comme Scarlett O'Hara, insatisfaite et... »
Et non, mais je suis désolée, ça, c'est des questions à l'Ardisson aussi. Hein.
Ah bah, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas vraiment peur. Et à l'époque, on se disait « Waouh !» Elle dit ça. Alors aujourd'hui, ça passerait dans la bouche d'une femme. Ça serait assez bien vu. On trouverait ça chouette. Je pense qu'à l'époque, c'était aussi le cas.
Mais c'est là qu'il y a un sujet. C'est-à-dire qu'une femme qui dit ça aujourd'hui, ça ne choquerait pas. Mais un homme, à l'inverse, qui tiendrait les propos de Thierry Ardisson à l'époque, ça choquerait.
Oui, ça choquerait. Mais à l'époque, c'était quand même souvent très misogyne. Enfin, je veux dire, Thierry est misogyne, tout le monde le sait. Après, j'aime pas trop parler trop de lui, parce qu'en fait, il se délecte de ça depuis des années. Il aime critiquer pour que les gens réagissent et qu'on continue à parler de lui.
Bon, par contre, vous dites que Thierry Ardisson, c'est un être rancunier et que vous, maintenant, vous avez envie de sérénité. La rancune, vous trouvez que ça bouffe la vie ?
Oui, je pense que ça bouffe la vie. Mais je ne suis pas rancunière parce que je suis passée à autre chose. Mais je n'oublie pas, parce que tout le monde n'est pas au courant de tout. Thierry est allé au bout du bout de ce qu'il pouvait faire à un moment donné pour qu'on ait une image de moi qui soit pas très reluisante, jusqu'à il y a encore pas très longtemps, de continuer à expliquer que je n'avais aucune culture et que j'étais bête. Enfin, après, j'ai envie de dire...
C'est un peu ce qu'on se dit en écoutant cette émission, non ?
Bah, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire, voilà, les médias, heureusement, et qui je suis, font le reste. Mais il y a un moment où ça devient un peu ridicule, donc c'est vrai qu'il faut savoir tourner la page.
Au bout de 4 mois, vous quittez donc l'émission Tout le monde en parle, vous prenez des cours de théâtre avec la folle envie de devenir comédienne. Après avoir tourné dans Recto Verso avec Smaïn dans la série H avec Debbouze et Eric et Ramzy, téléportation.
Je suis désolée.
Nous voici en 2004 dans les loges avec la coiffeuse du film de science-fiction Immortel Ad Vitam. Oh, j'ai mis 3 ans pour que ça repousse. Vous parlez de vos cheveux.
Pourquoi une ancienne Miss France a toujours des problèmes capillaires. C'est tout ce qui l'intéresse.
Et donc, ce jour-là, hop, la boule à Z pour interpréter Jill, une mutante qui sera choisie pour porter l'enfant d'un dieu et elle passe progressivement de l'état non-humain à humain. Mmh. Ce film se déroule dans un monde déshumanisé, dominé par les technologies. Vous croyez que la technologie fait plus de bien ou de mal à notre société ? On est en plein dedans en ce moment.
On est en plein dedans et Enki Bilal a toujours été visionnaire.
Il faut quand même savoir. Le
réalisateur et dessinateur. Il faut savoir quand même que quelques courtes années avant les attentats du 11 septembre, il a demandé, je crois que non, c'était pendant la préparation du film, il y avait la ville de New York qui était recréée grâce aux effets spéciaux. Et il a demandé à ce qu'on enlève les 2 tours. Et c'est arrivé quelques semaines, quelques mois plus tard. Enki, c'est quelqu'un qui a une vision très particulière. Et je pense qu'aujourd'hui, il vous dirait que oui, la technologie, alors j'allais dire à ses limites, elle n'en a pas, malheureusement. C'est bien le problème. Et que c'est un danger pour... moi, oui, je pense que la technologie à outrance est un danger pour l'humanité.
Linda Hardy, après Immortel, vous jouez dans des téléfilms, La Taupe, Section de Recherche, Mafiosa, RIS Police Scientifique, il y a le théâtre aussi, puis Demain nous appartient en 2018 et 2021. On vous a retrouvé ensuite dans Danse avec les Stars. Je voulais pas qu'on termine cette émission sans faire un détour, non pas par Danse avec les Stars, mais par l'année 2024. On découvre alors sur Netflix la mini-série Super Sexe. Bon, on n'a pas pu mettre l'extrait, hein. Pas à cette heure-ci.
Ah bon ?
Ah bah non.
Mais au moins la discussion entre les deux avant.
Ouais, mais moi c'était pas de ça dont je voulais parler.
Ah, c'était vraiment du cul.
Super Sexe. Qui raconte la vie de l'acteur porno Rocco Siffredi. Vous y incarnez Denise Lassène, amante de Siffredi, ancienne pornostar et gérante d'un club libertin parisien. Il y a une scène super chaude. Le réalisateur vous avait prévenu avant le début du tournage. Cette scène entre Rocco et Denise n'est pas une scène d'amour, mais une scène de performance sexuelle entre deux bêtes de sexe. Au moment de la jouer, dans votre tête, il se passait quoi ? Vous vous disiez quoi ?
Alors, il faut savoir qu'au moment où je la joue, je chante « Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince ». Ça, c'est pendant cette scène. C'est-à-dire qu'entre les scènes, entre les prises, il n'y en a pas eu beaucoup, je chantais ça. Alors, c'est pas tant pendant. Parce qu'une fois que j'y étais...
Vous y étiez.
J'y étais et j'ai tout donné. Mais... En fait, ce qui s'est passé, c'est que 3 semaines avant le début du tournage, je reçois un message du deuxième assistant réalisateur qui m'écrit en anglais « Hello Linda, could you please leave your pussy hair grow until the shooting ?» C'est-à-dire, je traduis, « Linda, est-ce que tu peux te laisser pousser les poils de là pour le tournage ?» Et là, je me dis « En 3 semaines... » Ça va être particulier. Je rappelle que nous jouons dans une série qui se passe dans les années 80. J'ai plutôt tendance à dire qu'il va falloir mettre une moumoute s'ils ont vraiment envie qu'on ait quelque chose.
Je pensais vraiment pas qu'on allait avoir ce genre de discussion.
Non,
ici.
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je reçois ce message, je suis prise d'une crise de panique. Et donc je réponds, je comprends pas en quoi est-ce qu'il y a besoin de voir cette partie de mon anatomie, puisque j'avais pas du tout signé pour ça. Donc, branle-bas de combat, le Réa m'appelle, machin, bon, on va discuter, blablabla, blablabla. J'ai dit, mais moi, j'ai pas... Moi, on m'a demandé si on pouvait voir mes fesses, et on m'a demandé si on pouvait voir mes seins. J'ai envie de dire, on les avait déjà vus, donc ça, ça va. Mais le reste, j'avais envie de garder tout ça tranquille. Et en fait, c'est là, lors de cette visio, je lui dis, mais je suis quand même un peu inquiète, je comprends pas... cette scène, il y a peut-être quelque chose que j'ai, voilà, que j'ai pas saisi. Et là, il me dit, bon, Linda, il faut que je t'explique, c'est très important, c'est que ça n'est pas une scène d'amour entre Denise et Rocco. Je lui dis, oui, parce qu'en plus, d'ailleurs, elle n'a même pas existé. Puisqu'en fait, moi, j'ai...
C'est une scène qui a été rajoutée.
C'est une scène qui a été rajoutée. Ouais. Et il me dit, c'est une scène de performance sexuelle. Il faut que je ressente dans cette scène ces deux bêtes de sexe qui se rencontrent. Et il faut que ça marque un tournant dans la vie de star du porno de Rocco Siffredi. C'est-à-dire qu'il me dit qu'il y aura quelque chose qui va se passer d'un point de vue de l'histoire qui va faire que, après ça, Rocco sera devenu le Rocco que l'on connaît. Et donc, voilà. Donc, ça a été compliqué. Ensuite, j'ai beaucoup absorbé des informations qui m'ont été données par la vraie Denise, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'elle était exhibitionniste. Elle m'a dit un jour au téléphone, je me rappelle, je lui dis, mais vous aimiez bien qu'il y ait des hommes qui vous regardent dans votre club faire l'amour avec d'autres hommes. Elle me dit, ah oui, je me dis, oh là là, ça va falloir que je le joue. Et c'est alors, vrai qu'alors, ce à quoi j'ai pensé pendant cette scène, c'est vraiment ça.
Oui, parce que
ça.
C'était la question de début quand même.
La question du début, mais j'ai toujours tendance à beaucoup à faire diversion, c'est vrai. Ce qui m'a le plus nourrie, c'est ce sentiment de me sentir extrêmement désirable, puissante et hyper exhibitionniste. Et ça, c'est un truc qui est magique chez les acteurs. C'est-à-dire que quand vous switchez, vous vous rendez compte que ça, vous l'avez en vous, en fait. On a tout en nous. On est toutes ces femmes. Mais il y a celles que l'on décide de montrer ou pas. Et ce métier est formidable.
Je dois dire, très belle performance.
Merci.
Je vous ai même envoyé un message via Instagram après avoir vu la série à l'époque.
C'est
on
vrai.
Ne se connaissait
mais,
pas.
Mais je suis toujours très touchée que d'autres femmes m'écrivent après ce genre de scène.
De rôle, ouais.
Parce que la vraie raison pour laquelle j'ai accepté ce rôle, qui pour moi était quand même une prise de risque, c'était cette envie de montrer qu'une femme à 50 ans, peut être belle, peut être désirable, peut être hyper sexy, peut être sensuelle, peut être sexuelle. Et que voilà, la vie continue.
Le sexe, le désir, vous en parlez. Dans votre livre Ménopause Attitude, vous dites « Je me sens beaucoup plus libre sexuellement qu'il y a 20 ans. Pourquoi ?»
Oui. Ça, c'est quelque chose que je ne saurais pas trop expliquer. Je ne sais pas expliquer pourquoi.
Moins de complexe, plus d'expérience.
Alors, moins de complexe, plus d'expérience, les deux. Moins de complexe, c'est certain. Moi, j'ai pendant très, très longtemps été complexée par certaines parties de mon corps, qui étaient souvent les mêmes que les hommes adoraient. Comme quoi, on a souvent une perception assez déformée et que ce que l'on aime chez soi, ce n'est pas forcément ce que les autres aiment chez vous. Et ensuite, plus d'expérience, oui, parce que quand on se connaît mieux, on connaît mieux ses désirs, ses envies, on connaît mieux l'autre. On sait mieux s'occuper de lui. Et quand on s'occupe bien d'un homme, si on l'a bien choisi, il s'occupe bien de vous.
Linda Hardy, avec la ménopause, certaines femmes éprouvent moins de désir. Vous écrivez « Ne vous forcez jamais à faire plaisir à l'autre ». C'est super bien de se dire ça, mais dans certains couples, s'il y a une baisse de régime, ça peut avoir des conséquences au bout d'un moment.
On n'a pas forcément les mêmes besoins, mais un couple, c'est ça. C'est d'être aussi à l'écoute de l'autre et d'accepter ce dont il a envie. J'ai eu ça quand j'étais jeune, de me dire à certains moments « Ah non, mais là il faut... ça fait 2 jours ou ça fait 3 jours. » Je me le suis dit. Je me demande d'ailleurs combien
de femmes
ne se le disent pas à un moment donné. Et je trouve pas normal que pendant très longtemps, nous les femmes, on se soit senties un petit peu obligées de remplir le devoir conjugal. Je trouve que ça, c'est certainement pas, en tout cas, ce qui fait qu'un couple peut durer sur le long terme. Mais je pense que la sexualité, l'envie de faire l'amour, ça se cultive à deux. Et ça suffit pas de faire l'amour pour faire l'amour, ou de faire du sexe pour faire du sexe. Il y a toute une intimité à créer, une complicité à maintenir.
Une tendresse.
Une tendresse, une compréhension qui fait que l'on a envie l'un de l'autre sexuellement. Je pense qu'il faut d'abord tout ça.
Linda Hardy, on termine l'émission avec un extrait musical.
Mama, it's menopause. No more children can be bred. Now my ovaries are dead. Mama.
Ménopause Rhapsody, parodie de Bohemian Rhapsody de Queen, une version réaliste et drôle de ce qu'est la ménopause et de ce que sont les symptômes. Je trouve que c'est très bien de terminer par ça. On va terminer quand même avec une citation de l'écrivain Ferdinando Camon. Le privilège de l'âge, c'est qu'on récolte alors qu'avant, on semait.
C'est pas mal.
On termine là-dessus ?
On termine là-dessus.
C'est merveilleux. Merci Linda Hardy.
Mais moi, j'ai toujours envie de semer, même à 50 ans. Parce que récolter, oui, je suis d'accord. Non, je la trouve pas si géniale que ça.
Ah bon, donc c'était de la merde, ok.
Non, c'est pas de la merde, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour semer et il n'y a pas d'âge pour récolter.
Eh ben, on terminera là-dessus. C'est bien, non?
Écoutez, si vous le dites.
La positive attitude, la ménopause attitude.
Si, aussi, la ménopositive attitude, si voilà. Vous voulez.
Ensemble, reprenons le pouvoir. C'est aux éditions Le Duc. 250 pages de témoignages, de conseils, de recettes pour vivre au mieux cette période de vie dont on ne parlait pas. C'est instructif, déculpabilisant, épanouissant et réjouissant. Linda Hardy, vous la retrouvez au théâtre aussi. Ça s'appelle Vive les vacances ou pas de Marilyn Ball. Les dates sont sur la page de l'émission Dans le rétro. Pour retrouver cette émission avec Linda Hardy et tous nos autres invités, c'est sur l'application Radio France Dans le rétro et sur toutes les plateformes. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Salut.